avant l'homélie, je vous donne connaissance du message de Mgr le duc d'Anjou à l'occasion du décès de Monsieur le duc de Beauffremont. C'est avec beaucoup d'émotion et une grande tristesse que j'ai appris ce matin la mort de mon cousin, Monsieur le duc de Beauffremont. Appelé à son service par mon grand-père, il a toujours montré envers ma famille un très profond et fidèle dévouement. Nous garderons de lui ce souvenir. La princesse et moi-même, et nos enfants, lui assurons de notre communion dans la prière, en lui apportant le soutien à sa famille, de nos sentiments les plus affectueux. Louis de Bourbon, duc d'Anjou. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, au moment de la mort de quelqu'un, au moment où il remet son âme à Dieu, après l'avoir fait pérégriner durant cette vie, c'est alors que nous nous assemblons. Si je vous regarde, vous ne pouvez le voir, Monsieur le Duc, car tout le monde est derrière vous, mais il y a là tout ce qui compte de sa famille. D'abord vous, évidemment, ses enfants, petits-enfants, arrière, cousins. Tout le monde s'est groupé, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, l'ont connu, suivi durant toutes ces années, tous ceux qui s'agrègent aujourd'hui à cette prière pour ne faire plus qu'un. Nous avons déposé, très symboliquement, auprès de lui, les symboles les plus essentiels de ce qui l'a fait vivre. D'abord, la croix. Il se trouve que cette église est détentrice de cette croix devant laquelle Marie-Antoinette a prié la dernière effigie du Christ au temple qu'elle a pu apercevoir. Et il me semblait hautement convenable qu'elle fût déposée sur son corps. Bien sûr, ces décorations, limitées, j'allais dire, aux deux essentiels, l'ordre du Saint-Esprit et l'ordre de la toison d'or, signe du service qu'il a rendu, comme je l'ai dit au début de cette messe, durant ces 60 années où il a représenté une famille. Plus incroyable peut-être encore, on aurait pu penser célébrer ses funérailles à Saint-Denis, où il a tant œuvré, mais Saint-Denis n'est pas loin de lui, car j'ai fait déposer à la tête de son cercueil, et tout à l'heure, en passant devant son corps, vous vous inclinerez, car ce sont les reliques de Saint-Denis, rustique et éleuthère, les fondateurs du diocèse de Paris, ceux qui établirent la foi de nos prédécesseurs, de nos pères jusqu'ici. Cette foi qui s'est manifestée dans sa vie d'une manière intime, publique et constante, vous avez tenu à me rappeler son amour, sa dévotion inconditionnelle envers la Sainte Vierge, sa fidélité à l'Angélus quotidien, qui peut dire, à 98 ans, qu'il a été fidèle tous les jours de sa vie à l'Angélus. C'est une marque importante qui produit du fruit. Ce fruit, il est venu jusqu'auprès de l'autel. Parmi les petits-enfants, j'en suis désolé, je n'ai pas pris le papier, mais je crois qu'il y a, vous rencontrerez des Beauffremont, des Chabot, des Rohan Chabot, et Pontac, bien entendu. Voilà, j'espère n'en avoir pas oublié. C'est-à-dire que la foi se perpétue dans la famille, et vous m'avez intimement, vous ne m'avez pas donné d'ordre, mais vous m'avez dit, il serait bon de rappeler l'importance que la famille avait pour mon père, pour notre père, l'importance que cette famille, cellule de base de la société, a pour lui et en lui. Voilà le fruit qui en est là, les deux pères assis à côté de moi tout à l'heure, et qui ont porté ces insignes, sont des petits-fils. Et alors je vais dire leur nom parce que j'ai très mauvaise mémoire, mais c'est le révérend père Jean-Augustin et le révérend père Jean du Cénacle, si je ne me suis pas trompé. Voilà, les deux petits-fils que vous connaissez bien. Et derrière moi, autre signe de fidélité, l'abbé Xavier Snoeck, qui a longtemps été curé à Sainte-Élisabeth, et l'abbé Étienne Lhomme, et le père Bruno Thévenin, et l'abbé Éric Iborra, qui est vicaire ici. Tous nous l'avons croisé dans l'exercice de notre mission, conjointement à la sienne. Alors voilà que nous sommes maintenant agrégés, tous ici, auprès de cet autel. On a tout fait au mieux, on a mis les insignes, on est venu, on se prête à cette prière. Qu'est-ce que le bon Dieu va faire maintenant? D'abord, nous le supplions. Nous le supplions, c'est la proclamation de la foi, la lecture que vous avez entendue de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, est une proclamation audacieuse, que Dieu va nous emmener, et c'est ce que nous espérons pour lui qu'il fait maintenant, qu'il l'emmène auprès de lui. Rien d'extraordinaire dans la proclamation, tout extraordinaire dans la réalisation, c'est Dieu qui opère le salut. Bien sûr, j'ai tenu à rappeler sa mission, sa fidélité, mais c'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu qui, petit à petit, nous façonne. Vous m'avez dit, du caractère de votre père, qu'il était trempé. C'est ce que l'on peut dire au moment de la mort, pour dire de manière la plus délicate possible que quelqu'un a un caractère de feu, voire peut-être pas toujours facile. Eh bien, ce feu, il se trouve sur l'ordre de la toison d'or. Il est au sud de l'agneau, du doux agneau du Christ, qui, par son esprit, proclame avec force et diligence le salut. Un caractère trempé, et même s'il n'est pas toujours facile à recevoir, est forcément un caractère, un thumos qui a beaucoup à dire et à répandre. Il lui en a bien fallu sûrement de ce feu pour exécuter sa mission. Mais, m'avez-vous dit, je ne vais pas tout dire ce que nous nous sommes dit. Je révèle quelques secrets intimes, mais relativement visibles pour ceux qui l'ont fréquenté, pour que ça ne soit pas une indiscrétion, qu'après la mort de sa femme, la douceur, certainement, avait tempéré ce caractère de feu pour montrer un autre visage, signe que l'Esprit-Saint, tout éclatant qu'il peut être, est aussi le doux hôte de nos âmes qui façonne une vie et qui donc a façonné la vie de votre Père pour l'amener à cette reconnaissance, à cette action de grâce perpétuelle qu'il semblait vivre toujours de plus en plus. Ne l'ayant connu que sur le tard, c'est cette image-là, effectivement, que j'avais lorsqu'il m'offrit ses souvenirs, 60 ans au service de l'Institut de la Maison de Bourbon, au service du Mémorial de France à Saint-Denis. Il me l'offrit avec une telle délicatesse, presque en s'excusant, presque en me disant qu'il n'avait pas pu mettre un autographe plus grand. Il avait un petit peu du mal à écrire, tremblant. Cette délicatesse des âmes qui se livrent à Dieu doucement dans leur vie. Alors voilà, le discours est simple. Nous croyons à la résurrection, nous le confions à Dieu et nous osons, au jour de sa mort, proclamer notre foi. L'audace des chrétiens n'est pas toujours visible, elle est incroyable. Nous avons tellement d'audace que nous portons le corps inanimé de ceux que nous aimons jusqu'au pied de l'autel, comme si aujourd'hui il allait encore communier, comme si aujourd'hui il allait encore répondre, et en fait il va le faire. Il va le faire dans son corps qui est l'Église, que vous êtes chargé d'agir, de représenter. Ce n'est pas pour rien que cette Église est en forme de croix, vous en êtes les membres vivants, en répondant à cette messe, en communiant avec dévotion. C'est lui aussi qui répond et qui communie. Quel incroyable mystère que celui de la communion des saints dans lequel nous sommes plongés, l'Église de la terre, l'Église du purgatoire qui attend sa purification définitive et l'Église du ciel, de ceux qui, déjà sanctifiés par Dieu, voient sa face. Il y a un échange perpétuel et si la mort brise une communication immédiate, on ne peut plus lui tenir la main, on ne peut plus lui rendre visite, on ne peut plus lui prodiguer humainement quoi que ce soit, ni même, semble-t-il, les sacrements dus à ceux qui croient en Dieu. Et je crois, mon père, que vous êtes allé lui porter, l'un de vous deux, je ne sais plus lequel, est allé lui porter les derniers sacrements à Versailles. Eh bien, par-delà cette brisure, nous nous unissons dans une communion plus grande, celle toute spirituelle de laquelle il vit maintenant. Peut-être parmi vous pourrait-il se lever, et j'espère qu'il doit s'en lever intérieurement, des saints Thomas. Et oui, alors que le Seigneur vient de faire un beau discours à ses disciples, alors qu'il essaye de les rassurer car il leur a déjà annoncé sa mort 3 fois, alors qu'il leur dit que tout va bien se passer, qu'il va mourir, mais qu'il part préparer une place, une demeure, un domaine. Voilà que, de ce discours de consolation, saint Thomas se lève et conteste. Il conteste, non pas qu'il manque de foi, non. Saint Thomas n'est pas homme à manquer de foi. Saint Thomas est l'apôtre qui, à Béthanie, à la veille de monter à Jérusalem, pour la dernière fois, alors que tous les autres conseillent au Seigneur de peut-être y aller doucement, ne pas se faire trop remarquer, disparaître, mais ce n'est pas possible quand on a une mission, quand on porte un titre qui oblige, eh bien ce n'est pas possible de faire trop discrètement. Il faut pouvoir tenir la mission qui est la sienne, et notre Seigneur, le seul exemple véritable de notre vie, a fait ainsi. Et c'est saint Thomas à ce moment-là qui dira « Montons avec lui et mourons avec lui ». Alors saint Thomas ne manque pas de foi. Mais voilà saint Thomas, comme chacun de nous aimerait qu'on lui explique. Parce que le Seigneur qui vient de dire qu'il part préparer une place, eh bien, il lui répond, il lui dit plutôt, il l'interpelle, il l'invective peut-être même. « Nous ne savons même pas où tu vas ». C'est le sens de notre tristesse. C'est le sens même pour un monsieur de 98 ans. C'est très raisonnable de mourir à 98 ans. Je devrais plutôt dire, c'est pas raisonnable, c'est rationnel. Ce n'est pas pareil. Mais notre foi bute ici parce que intimement, nous ne pouvons pas accepter la mort. Nous finirons par embrasser la croix. Nous finirons comme le Christ à passer par la croix pour arriver jusqu'au ciel, car c'est le chemin qu'il a ouvert. Mais nous rechignons, et nous avons bien raison. Nous sommes les amoureux de la vie. Nous sommes les amoureux de la famille qui vit, pas de la famille qui meurt. Nous sommes les amoureux de la vie et de la nature. Et peut-être certains ne le savaient pas, mais votre père avait cette délicatesse et cet amour de la nature, peut-être même porté jusqu'au paroxysme de l'original, puisqu'il avait une chouette, il eut une chouette vivante, je crois, chez lui, et il l'a gardée empaillée. C'est bien la même, peut-être pas la même, mais enfin, au moins le souvenir, cette originalité qui fait que, quelles que soient les conventions, quel que soit ce qu'il faut ou ne pas faire, ce qu'il faut faire, c'est la mission. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le péché. Tout le reste est libre. C'est le signe là d'un homme libre, d'un homme qui vit de ce qu'il croit, de ce à quoi il s'attache profondément, et c'est notre intimité avec la vie, celle que le Christ est lui-même. Mais, et je finirai par là, le plus important dans la réponse peut-être que je vous laisse méditer du Seigneur, tu ne sais pas le chemin, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. On pourrait croire que c'est de nouveau une consolation spirituelle facile. Cela ne l'est pas. C'est une indication précise, réelle, de ce qu'est notre vie. Si le Seigneur est le chemin, si le Seigneur s'est bien incarné, ce que nous venons de fêter à Noël, si le Seigneur a bien vécu une vie d'homme que nous allons méditer jusqu'au temps de Pâques, si le Seigneur a bien connu la mort, il a donc parcouru ce chemin humain qui se trouve être le sien, celui de votre Père, qui se trouve être le mien, qui se trouve être le nôtre. Et oui, c'est en parcourant le chemin de la vie qu'il nous est donné de nous associer à Dieu, parce que c'est Dieu qui s'est associé à ce chemin. Alors le chemin n'est pas facile, pas toujours facile, c'est vrai. Il a perdu sa femme il y a longtemps déjà. C'est toujours une épreuve. Il en a eu d'autres, des contradictions, des jalousies diverses, des disputes aussi. Mais c'est ce chemin-là, le vrai chemin que j'ai vécu, que Dieu sanctifie. Aujourd'hui, ce que nous portons devant Dieu, c'est son vrai chemin, son chemin de sanctification. Nous supplions pour ses péchés, nous offrons le bien qu'il a vécu, ce que Dieu va retenir et faire vivre éternellement. Voilà ce que nous présentons au jour d'une funéraille, de funérailles simples et solennelles à la fois, la prière qui nous unit encore en lui. Je donne les derniers mots à celui qui nous a quittés et qui écrivait. Lorsqu'en 1946, l'année de mes 20 ans, le prince Jacques, chef de la maison de Bourbon depuis 1941, me confia la haute mission de faire valoir ses droits auprès des cours royales européennes, je n'imaginais pas m'engager dans une aventure qui durerait ma vie entière. J'avais passé la plupart des années de conflit à Paris. En 1946, j'étais marié et j'occupais un poste d'archiviste que j'espérais provisoire au ministère de la Marine. Un jour du mois d'avril, je reçus un appel d'un certain monsieur Clausel, que je crus être un ambassadeur, autrefois ami de mon père. Il me remit en main propre une lettre de la part de l'un de mes cousins. Dominique Clausel n'avait en réalité aucun rapport avec l'ambassadeur, mais ce qu'il m'apportait valait toutes les valises diplomatiques. Il me tendit une grande lettre cachetée aux armes de France, adressée à monsieur le prince duc de Beaufremont. La lettre était manuscrite, datée de Rome le 28 mars 1946. « Mon cousin, je vous informe que je prends pour moi et ma descendance les armes pleines de France et les titres français de la branche aînée de la maison de Bourbon auxquels j'ai droit en tant que chef de la maison de France. Pour moi-même, je prends à ce jour le titre de duc d'Anjou et je vous charge d'en informer tout le monde, votre affectionné cousin. » Voilà ce qu'il nous reste des 60 ans de mission d'un homme qui est dans sa vie personnelle familiale et dans sa vie publique a pu établir le lien avec Dieu par la prière et l'action intérieure, laissant agir ce qu'il avait reçu de son baptême, de son mariage, de sa mission. Confions-le à Dieu intimement, car nous-mêmes qui sommes ici présents, chacun selon sa charge et selon son rang, reçoit aujourd'hui de cet homme, de cette communion des saints qui marche dans les deux sens, certainement quelque chose de cette mission. Il se conjoint au Seigneur pour nous confier la mission de la sainteté et chacun, dans la fidélité qui est la sienne et son rang et sa possibilité, dans la mission qui était aussi la sienne pour la France. Prions pour la France, prions pour lui, qu'il repose en paix, ainsi soit-il.